Marie-Hélène Grard, bonjour, bonjour.
Bonjour.
Soyez la bienvenue au petit déjeuner de Devenir pour Agir. Merci de me recevoir au siège même d'ADT Carmonde. Merci beaucoup. Alors, je voudrais tout d'abord commencer par une citation d'Alphonse de Lamartine. Un jour, on lui demandait de se présenter et on lui a demandé simplement qui il était. Et voilà quelle fut sa réponse. Je suis concitoyen de toute âme qui pense, la vérité, c'est mon pays. Marie-Hélène Grard, et vous, qui êtes-vous?
Ma phrase sera beaucoup moins belle et élégante que celle d'Alphonse de Lamartine, auquel je n'oserais prétendre pouvoir... Alors, qui suis-je? Je suis... présidente d'ATD Carmonde, Agir tous pour la dignité Carmonde. Ça veut simplement dire que mon parcours depuis plus de 38 ans est au cœur de ce mouvement ATD Carmonde avec les personnes très pauvres, avec les citoyens qui s'engagent contre la grande pauvreté dans notre pays et ailleurs dans le monde. Voilà.
D'accord. Et quels sont les grandes lignes de votre carrière professionnelle, parce que vous êtes passé par pas mal de...
Oh, je suis photographe, j'ai toujours été passionnée de photographie et je reste passionnée de photographie. Donc j'ai exercé pendant un certain nombre d'années et puis les aléas de la vie ont fait que j'ai dû arrêter d'exercer, mais j'ai aussi pu et su sans doute rebondir sur ces aléas pour donner davantage de temps à ATD Carmonde. Depuis déjà au moins 25 ans, je suis bénévole à temps plein à ATD Carmonde.
Voilà. Ah, vous avez de belles années passées avec ATD Carmonde qui va se poursuivre, bien entendu. Alors, ATD Carmonde lutte contre la misère et la pauvreté. Ma question est la suivante, comment définir premièrement la pauvreté et deuxièmement être pauvre?
Alors vous savez, il y a une très belle définition qui a été votée par le Conseil économique et social à l'époque, il s'appelait comme cela, maintenant il s'appelle Conseil économique, social et environnemental, troisième assemblée de notre République, qui a été votée en février 1987. Pour dire ce qu'est la pauvreté et ce qu'est la grande pauvreté, et en particulier ce qu'est la grande pauvreté. Parce que s'il y a une conviction que nous avons chevillée au corps à ATD Carmonde, c'est que tout ce que nous mettons en œuvre doit être mis en œuvre à partir des plus pauvres et avec les plus pauvres, et vraiment les plus pauvres. Donc je vous parle là de la grande pauvreté. Et la grande pauvreté, au-delà des considérations financières qui sont à prendre en compte, mais au-delà de ça, vous ne tombez pas du jour au lendemain dans la grande pauvreté. La grande pauvreté, c'est un cumul de précarité. C'est avoir des soucis dans les domaines des différents droits fondamentaux. Le logement, l'emploi, l'éducation, la santé, la culture, voilà, c'est avoir des soucis vraiment importants dans ces différents domaines des droits. Et malheureusement, si vous n'y tombez pas par un accident comme ça de la vie, c'est parce qu'il vous faut accumuler un certain nombre de précarités pour arriver dans la grande pauvreté et vous n'en sortez pas non plus du jour au lendemain.
Oui, mais alors comment, à quel moment, vous parlez de précarité, mais à quel moment pouvons-nous qualifier, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, une personne comme étant pauvre?
Alors, il y a la précarité financière,
oui,
qui fait que si vous avez 0 euros pour vivre ou moins de 1057 euros pour vivre, vous êtes considéré comme vivant sous le seuil de pauvreté dans notre pays.
Oui.
Voilà, il y a différents niveaux de seuil de pauvreté. Le revenu médian dans notre pays étant d'environ 1700 euros, vous êtes considéré à moins de 1000 euros par mois comme quelqu'un qui vit dans la précarité, dans la pauvreté.
Oui.
Mais vous savez, je discutais hier avec une amie de ces termes de précarité, de pauvreté, de grande pauvreté. On ne cesse de se re-questionner sans cesse pour être bien compris, justement. Et elle me disait une chose très juste sur une personne qu'elle connaît qui a un âge très avancé. Et elle me dit, tu vois, elle a connu la grande précarité parce que lors de la Seconde Guerre mondiale, elle a été obligée d'être cachée pendant plus d'une année, pendant de très longs mois à Lyon, parce qu'elle ne pouvait pas sortir, puisqu'elle, voilà, du fait de son identité, etc., elle n'avait pas le droit de sortir, sinon elle se faisait arrêter. Donc elle a vécu dans la grande précarité, mais elle n'a jamais vécu dans la grande pauvreté. Vous
Ah
voyez
oui,
ce que je veux dire? Vous voyez la
la
nuance là?
nuance, oui, c'est ça. Non,
Et la
c'est...
nuance, elle est très importante. Parce que cette personne, elle a vécu dans la grande précarité, effectivement, de ne pas savoir quand elle va pouvoir ressortir dans la rue, aller rencontrer du monde. Mais elle n'a jamais vécu la grande pauvreté qui est de ne pas être reconnue aussi par les autres. Vivre dans la grande pauvreté, je le dis toujours, c'est le ressentir dans sa chair d'être différent des autres, de ne pas être reconnu souvent comme une personne à part entière. C'est ça aussi, vivre dans la grande pauvreté.
Non, c'est une très belle nuance, très importante cette nuance entre précarité et pauvreté. Et au niveau des chiffres, en France et dans le monde, mais tout d'abord en France, combien de dirais
Alors,
combien
je vais
de
savoir vous dire les chiffres en
oui.
France. Pour le monde, je n'ai pas retenu.
Alors pour la
D'accord?
France,
Je suis
restons en
désolée,
France, hein,
je
je
suis
vous en
présidente de la
prie.
Télécommande en France, donc je
Oui, je
retiens
vous en
bien.
prie.
En France, on est hélas, on est quand même la sixième puissance mondiale, et nous en sommes à 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France.
10 millions.
C'est énorme. Dans notre système scolaire obligatoire, donc 3 ans, fin du collège. D'accord? Il y a plus de 3 millions d'enfants, de jeunes, qui vivent dans une famille qui vit sous le seuil de pauvreté. Et parmi eux, 1,6 million qui vivent dans une famille qui vit dans la grande pauvreté. Je ne dis pas que ce sont des enfants pauvres.
Oui.
Je veux que l'on fasse la différence. Ces enfants, comme tous les enfants, comme tous les jeunes, ont un avenir. Et il ne s'agit pas de leur mettre dès le départ une étiquette d'enfant pauvre.
Non, c'est énorme, c'est vrai, les chiffres, je ne les connaissais pas, mais c'est énorme. Alors, on parle de pauvreté, je dirais, il y a aussi une pauvreté morale, bien sûr, mais Sénèque, le philosophe Sénèque a une définition du pauvre, et je voudrais que vous réagissiez, rebondissiez sur cette définition. Il affirme, je le cite, le pauvre n'est pas celui qui a peu, mais celui qui en veut toujours plus. Marie-Alain Grard, excusez-moi, est-ce que la société de consommation qui veut toujours plus, enfin qui nous incite à avoir toujours plus, n'est-elle pas un facteur de cette pauvreté morale en tout cas? Comment réagissez-vous à la citation de Sénèque?
Toutes les personnes que je connais depuis bientôt 40 ans, qui vivent dans la grande pauvreté, aimeraient tellement avoir plus, effectivement, comme tout un chacun d'ailleurs. Mais elles, c'est plus que légitime
Oui.
quand on vit. Mais je ne suis pas d'accord avec Sénèque, je suis
Non,
désolée.
mais c'est pas.
Je ne suis pas d'accord avec Sénèque. Vivre dans la grande pauvreté, je vous disais, c'est le ressentir dans sa chair, c'est chaque jour se demander ce que l'on va pouvoir donner à manger à ses enfants, à ses jeunes dans la famille. C'est parfois, trop souvent pour les adultes, se priver d'un ou deux repas par jour pour que les enfants aient à manger. C'est ne pas savoir où on va dormir demain. Donc, de là à dire que l'on veut toujours plus. Non, ils veulent simplement un logement
Oui.
digne et un emploi digne.
Oui. Et alors, et finalement, ceux qui, je dirais, comment les appelez-vous, finalement, je dirais, les autres personnes qui se plaignent alors qu'ils ont tout, comment, alors on ne peut pas dire que ce sont des pauvres, ce n'est pas la grande pauvreté, parce que voilà, ils ont un logement, ils ont... Mais comment qualifiez-vous ces personnes qui... Ben, il faut que de se plaindre. On entend souvent des personnes se plaindre, il fait trop chaud, il fait trop froid. Je ne sais pas, on ne peut pas dire une pauvreté, c'est évident, mais comment qualifiez-vous ces personnes-là?
Ah oui, je comprends. Vous partez sur... Moi, vous savez, je milite à TD Carmonde depuis de nombreuses années pour une société qui n'oublie personne, pour une société qui ne laisse personne de côté. Et je ne veux surtout jamais opposer les uns aux autres. Il y a ceux qui ont tout, mais dans notre mouvement à TD Carmonde, nous sommes une mini-société, et une mini-société avec des gens extrêmement diverses. Des gens qui vivent avec beaucoup, des gens qui vivent avec très très peu, voire avec rien. Et chaque jour, nous essayons et nous avançons ensemble pour faire société ensemble. Oui. Donc je ne me permettrai jamais de qualifier les personnes. Moi, je pense qu'ils sont malheureux quelque part. Ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas encore découvert la richesse d'être avec d'autres, de rencontrer d'autres, d'avoir la chance de rencontrer d'autres tellement différents que ces petites choses de la vie, on ne les voit pas. Oui. Les personnes qui sont militants à TD Carmonde, ce sont des personnes qui vivent dans la grande pauvreté. Eh bien, si vous étiez à une rencontre d'Université Populaire Carmonde ou dans une rencontre du mouvement à TD Carmonde ou au conseil d'administration que nous avions ici hier soir, vous auriez vu que, comme vous et moi, elles ont, excusez-moi cette expression, je ne trouve pas d'autres, elles ont la pêche, elles en veulent, même si leur quotidien, il est dur. Mais on en a envie de cette société ensemble et d'avancer ensemble.
On a envie de vous suivre, vraiment, c'est extraordinaire. Mais Marie-Hélène Grard, faut-il, comment dirais-je, toucher au plus près, au plus proche la pauvreté pour la connaître, c'est-à-dire finalement ceux qui ne la touchent pas, ceux qui sont assez éloignés, ou peut-être aussi qui s'en éloignent volontairement parce que ça les fait souffrir ou ça les ramène à eux-mêmes. On ne va pas leur jeter la pierre, on ne va pas les juger bien sûr, mais est-ce que finalement la pauvreté, c'est un cercle anthropologique de venir pour agir, mais est-ce que la pauvreté ne nous ramène peut-elle pas à nous-mêmes pour nous montrer et nous faire découvrir encore plus la chance que nous avons de pouvoir être qui nous sommes et peut-être de nous mettre en marche pour aider les plus pauvres?
La dernière phrase est terrible.
Non, mais réagissez, c'est le but de la discussion.
Vous savez, moi je n'ai jamais connu la grande pauvreté ou la pauvreté. J'ai cette chance, je n'ai jamais connu. Mais ce que je sais, c'est que nous avons tous une richesse en nous à partager avec l'autre. Et que l'autre, quel qu'il soit, il faut du temps pour se connaître et se reconnaître. Prendre le temps de se connaître pour se reconnaître. Et quand on vit dans la grande pauvreté, la notion de temps, elle est très importante. Elle est très importante parce que les personnes qui vivent dans la grande pauvreté sont cassées par trop de précarité, justement, du quotidien. Ça casse durablement les gens. Donc la notion de temps, savoir prendre le temps ensemble pour se connaître, se reconnaître et avancer ensemble. Donc pour moi, cette notion-là, elle est absolument, absolument essentielle. C'est comme cela que l'on pourra avancer. Non pas pour aider les plus pauvres, mais pour avancer ensemble et bâtir la société ensemble. Pour bâtir une société qui n'oublie personne, je n'ai pas besoin d'aider les pauvres. J'ai besoin de réfléchir avec eux pour qu'ensemble nous voyons qu'est-ce qui manque dans notre société pour qu'ils aient vraiment leur place dans la société. Je vous ajoute juste une chose. Les plus pauvres n'ont jamais perdu leur dignité, comme on le dit souvent. Souvent on nous dit ils vont retrouver leur dignité grâce à... Ils ne l'ont jamais perdue. Simplement, on ne leur permet pas de l'exercer. On ne leur permet pas d'exercer leur dignité. Et quand tout à coup, ou après un travail commun, on leur permet d'exercer cette dignité, je vous assure que vous n'avez plus la même personne en face de vous et que vous verrez à ce moment-là que des personnes marquées physiquement par des années de grosses galères sont en capacité de travailler avec des philosophes comme vous, avec des chercheurs, avec des gens bien plus éminents que moi et de construire des choses pour notre société dans tous les domaines qui traversent notre société.
C'est très beau ce que vous êtes, la personne que vous êtes et les mots que vous utilisez. Je vous remercie parce que vous venez de faire, de par vos mots, la transition, parce que vous venez d'utiliser le mot, plusieurs fois ce même mot, de dignité. Comment définissez-vous la dignité? Qu'est-ce qu'une dignité humaine?
Vous savez, ce que j'ai appris dans ce mouvement de Geneviève de Gaulle-Antonioz, qui a été présidente de ce mouvement, de Paul Bouchy, qui a été président de son mouvement. Et Paul nous a beaucoup appris à lutter pour l'égale dignité de tous. Si je peux exercer ma dignité, si vous pouvez, si chacun de nous peut exercer sa dignité, c'est parce que les autres me renvoient une image qui me laisse cette capacité d'agir et d'exercer ma dignité. Et ça, c'est très très important. L'égale dignité de tous, elle ne dépend pas que de moi, elle dépend aussi de l'autre qui est en face. C'est ensemble que nous pourrons exercer cette dignité. La dignité, elle est essentielle. Les personnes qui vivent dans la grande pauvreté, dans la très grande pauvreté, n'ont pas cette possibilité d'exercer leur dignité parce qu'on les enfonce trop, parce que personne ne les reconnaît comme un être humain à part entière, comme quelqu'un capable d'exercer sa place dans la société.
Et donc, il n'y a pas de... on ne peut pas opposer, je crois qu'il se complète, à la fois la dignité et l'amour, parce que vous dites la connaissance, la reconnaissance de l'autre ne peut se faire que dans l'amour et par l'amour.
Il se complète
complètement.
Ah oui, complètement. La dignité et l'amour, pour moi, se complètent.
Comment définissez-vous l'amour? Parce que j'ai une citation de Michel Camposeo qui dit « Un véritable pauvre n'est pas celui qui est privé de biens matériels, mais celui qui est privé d'amour.
» C'est terrible d'être privé d'amour.
Oui.
C'est terrible d'être privé de l'amour de ses enfants. Par exemple, vous imaginez, vous avez des enfants, vous êtes obligé de vivre à la rue puisque vous n'avez pas de logement, vous vous retrouvez dans une situation totalement infernale à vivre à la rue avec vos enfants et au bout d'un moment, immanquablement, on va vous prendre vos enfants pour les placer dans une institution ou dans une autre famille, pour les mettre à l'abri, comme on dit. Oui. Comme si on ne pouvait pas trouver un logement pour ses parents qui sont dehors avec leurs enfants, à l'ensemble, on va dire qu'ils sont deux et deux, deux parents oui. et deux enfants. Eh bien, tous les quatre, leur trouver simplement un logement, non, on va priver de l'amour de leurs parents et réciproquement de l'amour.
C'est terrible.
C'est terrible. Et ça arrive encore beaucoup. Beaucoup trop souvent dans notre pays.
C'est terrible parce que vous nous faites vraiment toucher du doigt cette très grande pauvreté en France. Mais alors, quel est le facteur ou le fondement de cette pauvreté? Comment essayer de remédier?
Vous savez, à force de parler comme ça avec les uns et les autres et de prendre le temps de réfléchir avec les personnes très pauvres régulièrement, je crois qu'il faut s'en imprégner vraiment de leurs pensées pour arriver à avancer à une société ensemble. Je crois vraiment que dans notre société, nous, les personnes qui prennent les décisions pour les plus pauvres, les gouvernants, mais pas que. C'est pas que des gouvernants qui prennent des décisions pour les plus pauvres, ce sont aussi des responsables de droite et de gauche pour les plus pauvres. Tant que ces décisions seront pensées pour les plus pauvres par des personnes qui n'ont jamais pris le temps de vraiment comprendre que faire société ensemble et que chacun a sa part dans la société, je crois que nous n'avancerons pas. Il ne s'agit pas de faire la charité à des personnes. Il s'agit de vivre à égale dignité. Nous ne sommes pas dans la charité. Nous sommes à égale dignité. Et que pour que chacun puisse vraiment exercer sa dignité, il faut reconnaître l'autre capable. Et pas se dire, l'autre, je vais... Allez, on va déjà lui donner un petit boulot et puis après, il va nous montrer s'il peut s'en sortir. Est-ce que le logement que je lui propose, j'y logerai moi-même? Est-ce que j'y logerai mon enfant, mon ami? Est-ce que ce logement qui est totalement indigne, j'y mettrai quelqu'un que j'aime, que j'apprécie? Eh bien, pour toute personne de notre société, nous devrions nous poser cette question. De même, la place d'une personne, excusez-moi, je poursuis, la place d'une personne dans une entreprise, elle est très importante, quelle que soit la taille de l'entreprise. La place d'une personne dans une entreprise est d'être reconnue par ses collègues, par l'ensemble de ses collègues, et d'avoir une vraie place, pas forcément de progresser et d'aller au plus haut, etc., d'être reconnue par les autres pour tenir dans cette entreprise. Il y a des boulots qui sont très durs. Comment tenir quand personne ne vous reconnaît?
C'est très beau, je vous écouterai des heures, parce que c'est très beau, vous avez un amour de l'humain qui est magnifique. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes aussi membre du conseil scientifique Covid-19. Ma question est la suivante, est-ce que le fait de faire partie de ce conseil scientifique, vous représentez les associations, c'était encore plus difficile, vous avez encore plus touché la pauvreté pendant cette période de pandémie? Est-ce que c'est une nouvelle, finalement, ça a été, une nouvelle approche de cette pauvreté?
Je ne sais pas si ça a été une nouvelle approche. Ça a été un moment, et qu'il ne faut pas oublier, où un certain nombre de personnes dans notre société ont pris conscience qu'il y avait beaucoup de personnes qui vivent dans une grande fragilité.
Oui, la fragilité, oui.
Dans une très grande fragilité du quotidien. Et je crois que on peut le dire, hein, du plus haut sommet de l'État à tous nos concitoyens comme vous et moi, je crois que nous avons tous davantage pris conscience que les personnes qui vivent dans cette grande pauvreté, elles sont d'une très grande fragilité. Et je veux juste souligner que la conscience, elle a été prise en compte par notre gouvernement, on va dire, au début de cette crise. Ça fait un moment que ils ont été oubliés dans cette crise. Ça a été pris en compte au début.
C'est le constat que vous faites.
Ah oui, mais alors, ça fait un moment que je ne suis plus entendue du tout.
Et pour
je dis je ne suis plus parce que, comme vous dites,
je représente
les associations au Conseil scientifique. Nous continuons, dans nos rapports, de faire des préconisations pour les personnes les plus défavorisées, etc. Jamais, je n'ai été interrogée par un membre du gouvernement ou par des journalistes pour savoir pourquoi nous avions fait ces propositions et comment nous souhaitions les développer ou choses comme ça. Ça ne retient l'attention de personne.
Et à votre avis, pourquoi? Est-ce que
parce que vous savez, l'économie, ça compte dans notre pays.
Oui.
Et que l'économie a repris le dessus sur tout le reste.
Oui. Je voudrais en parler des heures avec vous de cela, mais je vois malheureusement que l'heure avance. Je voudrais, dans ADT Carmonde, vous avez aussi vous mettez un point d'orgue sur ce que vous appelez la culture. Comment définissez-vous la culture et pourquoi est-elle aussi importante pour venir en aide aux plus pauvres?
Alors je vous reprends, nous ne venons pas en aide aux plus pauvres. Nous bâtissons ensemble la société. Nous ne venons pas en aide aux plus pauvres. Nous avons des personnes qui habitent auprès des plus pauvres, qui sont des volontaires permanents de notre mouvement, qui habitent auprès des plus pauvres dans des quartiers un peu partout en France. Et nous avons des citoyens comme vous et moi qui ont cette attention aux personnes les plus pauvres pour faire des choses ensemble, pour bâtir cette société ensemble. Et la culture fait partie de cela. Vous savez, c'est Geneviève de Gaulle qui un jour a dit à des journalistes, elle était, et je la comprends maintenant que cette responsabilité, il y a des moments où on s'agace. Mais c'était très juste son agacement. Elle a dit un jour à des journalistes, c'est aux chiens que l'on donne à manger. Aux humains, on leur donne à manger la culture.
Ça voulait tout dire. C'est très beau comme...
C'est très rude. C'est très rude. Mais rien n'est jamais trop beau pour les plus pauvres, a toujours dit Joseph Rezinski, notre fondateur. Rien n'est jamais trop beau pour les plus pauvres. Et lorsque nous faisons des actions culturelles dans les quartiers ou que nous montons des actions culturelles avec d'autres associations, avec des services culturels de certaines villes, avec des troupes de théâtre, ou que nous faisons un atelier chant avec des chanteurs professionnels, des personnes qui vivent dans la grande pauvreté, des personnes comme vous et moi, rien n'est jamais trop beau pour les plus pauvres. Et nous ne faisons rien au rabais dans ce domaine-là en particulier. C'est très important. Faire une bibliothèque de rue, aller chaque semaine avec des livres dans le même lieu, toutes les semaines avec des caisses de livres et une couverture pour lire des livres aux enfants et aux jeunes de ce quartier, c'est avec des livres neufs, de beaux livres, parce que la culture, c'est du beau et nous voulons partager du beau.
Voilà, je vous écouterai des heures, Marie-Edgar. C'est très beau parce que ce que vous dites, en fait, et je vous remercie de m'avoir repris parce que vous...
Je m'excuse, hein,
mais non,
c'est très important.
Mais vous avez raison parce que c'est une belle discussion profonde et vraie et authentique et je vous en remercie. Je retiens sur ce que vous dites, bâtir ensemble. Et donc, dans le bâtir ensemble, nous avons l'idée de la responsabilité. Nous sommes toutes et tous responsables. À tout niveau de la société que nous sommes. La responsabilité, dans le mot responsabilité, il y a le mot de réponse. Finalement, quelle est la réponse? Je dirais que l'on attend tous des uns des autres dans ce bâtir ensemble. La réponse, alors que je dirais...
La réponse, elle est à bâtir tous ensemble.
Voilà.
Il n'y a pas une réponse, il y a des réponses pour les différents domaines de la société, pour les différents lieux où nous vivons dans notre pays. La réponse, elle ne sera pas la même à Montreuil, là où nous sommes, ou dans le Jura, ou dans la Creuse, ou en Midi-Pyrénées, vous comprenez bien. La réponse, elle est très différente suivant les territoires, mais elle est à bâtir avec les personnes, avec toutes les personnes qui habitent ce territoire. Les réponses, elles ne peuvent se bâtir qu'avec toutes les personnes qui habitent un territoire.
Et alors comment, je dirais, sensibiliser toutes ces personnes?
Vous savez, nous menons actuellement, avec d'autres partenaires, une expérimentation qui est un peu connue maintenant, qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, qui est d'expérimenter sur un territoire bien défini, d'éradiquer le chômage de longue durée, c'est-à-dire de proposer aux personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an de réfléchir avec elles à quel emploi elles pourraient prétendre, d'avoir ensuite un emploi à temps choisi, en CDI, au SMIC. Et cette expérimentation, elle ne peut se mettre en route et elle ne pourra perdurer que si tous les acteurs du territoire se mettent ensemble. Mais dans tous les acteurs, il y a en tout premier toutes les personnes qui sont au chômage depuis plus d'un an. Parce que pour rebâtir ces liens sur un territoire, il ne faut absolument oublier personne. Ça, c'est essentiel.
C'est essentiel, oui.
Essentiel.
Mais alors, dans le fait de n'oublier personne, d'être responsable toutes et tous à notre niveau, Il n'y a pas de responsabilité sans action. Je vois votre agir tous pour la dignité. Dans le mot agir, il y a un mot de dynamisme, de partir
bien
ensemble.
Sûr. Bien sûr.
Et ma question est la suivante. Il n'y a pas d'action sans engagement. Quelle est pour vous la richesse et la force de l'engagement? Parce que, je dis cela parce que devenir pour agir, il y a des milliers de jeunes qui nous écoutent. Le mot engagement fait peur. Actuellement, le mot engagement fait peur parce qu'ils disent, voilà, on va manquer de liberté, etc. Comment pouvez-vous...
L'engagement, c'est une question très personnelle. C'est chacun de nous qui décide ou pas de s'engager. C'est vraiment de la responsabilité de chacun, de chacune d'entre nous, de se dire je vais m'engager, je vais m'engager pour cette cause, je vais m'engager à fond dans mon travail, je vais m'engager à fond dans ma famille, je vais m'engager pour une cause, pour quelqu'un, pour quelque chose, pour un but qui vraiment me tient à cœur. Ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de très personnel. Et c'est souvent dans un chemin de vie, enfin moi qui ai 60 ans, j'ai un peu plus de recul sur un certain nombre de choses, et je crois que je peux dire que l'engagement, parfois, très souvent, il vient d'une rencontre, il vient d'une écoute, d'avoir eu un moment particulier avec une personne, ou pas particulier avec cette personne, mais d'avoir entendu pourquoi moi je suis engagée à TD Quart-Monde. Parce que lorsque j'avais 16 ans, j'ai entendu des volontaires permanents d'ATD Quart-Monde qui lâchaient leur métier, ingénieur, éducateur, pour devenir volontaire permanent à ATD Quart-Monde, c'est-à-dire vivre auprès des plus pauvres. Ça m'a questionnée. J'ai lu, j'ai essayé de comprendre, et voilà.
Et vous en êtes présidente, c'est merveilleux, un beau parcours.
Oh, je n'ai jamais voulu être présidente d'ATD Quart-Monde.
En tout cas,
ça,
on vous
c'est
fait
les
confiance
hasards de
parce
la
que
vie.
Voilà, c'est ça. Mais alors, je trouve que la définition que vous donnez est très belle et finalement fait écho à celle de Stéphane Hessel qui définit l'engagement de la manière suivante. Merveilleux, vous voyez ça. Et voilà ce qu'il dit, chaque génération est en mesure de trouver sa place et son engagement, selon lequel un homme n'est vraiment homme que lorsqu'il est vraiment engagé et qu'il se sent responsable.
Absolument. Moi, je suis complètement d'accord avec Stéphane Hessel.
Oh là là, c'est merveilleux. En plus, comme vous l'avez connu...
Oui, je l'ai vu rencontrant des jeunes pour leur dire justement combien l'engagement était quelque chose d'essentiel et de très important dans la vie. Et moi, je souhaite à chaque jeune d'avoir ce petit moment où ils se disent « là, je vais m'engager ».
Mais écoutez, vous venez de faire la transition pour ma dernière question, parce que malheureusement, l'interview s'achève. Mais Marie-Lette Grain, à tous les jeunes, les milliers de jeunes qui vous écoutent aujourd'hui, quel message d'espérance pouvez-vous leur offrir?
Alors, ce n'est pas simplement l'engagement, c'est les choix que l'on fait dans notre vie. Ils dépendent de nous. C'est chacun de vous qui devez choisir, faire les choix de votre vie, faire les choix du métier que vous voulez exercer, faire le choix de l'engagement que vous voulez prendre. Et ça, c'est absolument essentiel. C'est à vous de les faire, ces choix.
Les amis, Marie-Lette Grain nous dit aujourd'hui, c'est à vous tous, à nous tous de faire ces choix. Marie-Lette Grain, un très grand merci de m'avoir reçu. Merci pour votre amour pour l'humain que l'on ressent à travers vos mots, à travers votre belle personne que vous êtes. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir pris de votre temps. Et je voudrais terminer par une citation d'Abraham Lincoln. Et voilà ce qu'il souligne. Il souligne l'engagement et ce qui transforme une promesse en réalité.
Tout à fait.
Alors,
c'est tout à fait ça.
Essayons de toutes nos promesses. Essayons de les concrétiser ensemble pour bâtir ensemble cette civilisation que nous aimons tous. Et les amis, je vous invite au nom de Marie-Lette Grain de vous engager et de venir soutenir. Pouvez-vous simplement nous dire comment nous pouvons soutenir ATD Quart-Monde?
Vous venez sur le site ATD, ATD-Quart-Monde dans le même mot, donc qartmonde.fr.
Et ben voilà.
À bientôt.
Engageons-nous, à bientôt. Un très grand merci.
Merci à vous.